Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, donc nous allons continuer notre parcours dans la parole de Dieu concernant l'enseignement de la dîme. Et il y a un aspect particulier que je voudrais relever encore dans ce passage de Malachie 3, c'est quand le Seigneur dit « Vous me trompez ». Quand on dit à quelqu'un « Tu me trompes », si un conjoint dit à son conjoint « Tu m'as trompé », on comprend ce que ça veut dire, et c'est quelque chose qui est grave, parce que la confiance est trahie. Tromper, ça peut aussi vouloir dire tricher ou voler quelqu'un. Et donc, si nous sommes en train de voler Dieu, il nous faut comprendre en quoi nous le volons. Et pour ça, il nous faut comprendre la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est d'aimer. La nature de Dieu, c'est d'être généreux. Donc, lorsque nous volons Dieu, qu'est-ce que nous lui prenons? Nous lui prenons le plaisir de nous donner. En réalité, c'est ça. Nous avons vu que le Seigneur dit, dans Agé par exemple, il dit « L'or et l'argent sont à moi ». Dans les psaumes, il dit « Toutes les bêtes sur les milliers de montagnes, tout m'appartient ». Donc, quand nous ne donnons pas notre dîme, nous ne donnons pas nos offrandes, qu'est-ce que nous volons en réalité à Dieu? Nous lui volons la capacité de nous bénir en tant qu'enfants de Dieu. Nous l'empêchons d'agir. Et ça, c'est très fort. Je pense que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre ça. Comment un Dieu tout-puissant peut-il être empêché d'agir? Et nous avons absolument besoin de vérifier dans la parole de Dieu qu'il est possible d'empêcher d'agir Dieu, sinon certains ne le croiront pas. Alors nous allons prendre l'exemple de Marc au chapitre 6 et je vais lire les versets 1 à 6. Je crois que c'est important de faire établir ce passage pour que nous réalisions ça. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Donc ils reconnaissaient la sagesse qui sortait de la bouche de Jésus. Ils reconnaissaient qu'il était quelqu'un qui accomplissait des miracles, mais il y avait leur raisonnement. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ce n'était pas sa faute, hein, je précise. Ils n'avaient rien fait de travers. Mais c'était à cause de leur raisonnement. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et là, c'est important que nous soulignions ce verset. Il ne put faire là aucun miracle. Il n'avait pas la possibilité de faire le miracle, à cause de leur incrédulité. Et on peut dire de la même façon, nous sommes en train de voler Dieu, nous l'empêchons d'agir lorsque nous ne voulons pas obéir à la loi spirituelle concernant la prospérité, les dîmes et les offrandes. Pourquoi Dieu le ferait-il? Alors certains parlent de la souveraineté de Dieu, que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Dieu est souverain, il est tout puissant, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si nous voulons connaître Dieu, la meilleure façon c'est de le connaître au travers de sa parole. Et quand nous voyons quelque chose qui est dans la parole de Dieu, nous savons que Dieu va agir selon cette parole. Parce que sa parole et lui ne font qu'un. En d'autres termes, on peut dire que Dieu est lié par sa parole. Il ne peut pas faire autre chose parce que c'est lui-même qui l'a déclaré. Vous comprenez cela? Donc, si Dieu a déclaré certaines choses dans sa parole, il va agir selon cette parole. Pourquoi Dieu donnerait-il des principes spirituels concernant la dîme, les offrandes, la prospérité, et après il agirait de façon anarchique, n'importe comment? Pourquoi? Ce genre de raisonnement ne peut provenir que des hommes. Mais Dieu n'est pas comme ça. Mais nos pensées ne sont pas ses pensées, nous dit la parole. Donc nous avons besoin d'apprendre quelles sont ses pensées. Et ces pensées, nous sommes en train de les voir concernant la prospérité. C'est que la loi de la dîme, c'est une alliance avec Dieu qui ouvre une brèche, une possibilité pour Dieu de déverser des bénédictions sur son peuple. C'est une façon où nous montrons à Dieu que nous sommes consacrés, que nous lui appartenons, que nous honorons sa parole. La dîme sert à beaucoup de choses. On a déjà vu ça dans un autre enseignement. Mais j'aimerais encore vous donner quelques aspects supplémentaires. La dîme sert à nous protéger. C'est une façon de mettre à l'abri. Beaucoup de gens peuvent être inquiets. Et ici aussi, nous avons dans ce passage de Malachie, nous avons le fait que Dieu s'engage à menacer le voleur. Même des fois des personnes qui se croient à l'abri ou qui croient leur richesse à l'abri. Le riche insensé avait tellement de choses, il disait « je vais construire d'autres granges et greniers pour mettre tous mes biens ». Et Dieu lui insensé lui dit « insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, ce que tu as préparé ce sera pour qui ?» Donc dans Matthieu 6, nous pouvons lire au verset 19 « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Il n'est pas dit que nous ne devons absolument pas mettre quoi que ce soit de côté, que nous ne pouvons rien avoir. Mais ici, il nous est dit que si vous mettez votre confiance dans ces choses, vous risquez d'être déçus. Il y a les voleurs qui percent et dérobent. Il nous est dit au contraire, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ici, nous voyons que Jésus ne nous propose pas d'exercer notre foi pour qu'un voleur ne puisse jamais nous prendre quoi que ce soit. Bien que nous puissions le faire. On priait pour la protection de Dieu à tous égards. Mais il nous dit que la meilleure façon de mettre nos choses à l'abri, c'est de nous amasser des trésors dans le ciel. Or, ce que nous avons ici-bas, les choses matérielles, on ne peut pas les mettre dans le ciel. Donc la seule façon, c'est de les transférer dans le royaume de Dieu en les consacrant à l'œuvre de Dieu, par nos dîmes et nos offrandes. C'est une façon où nous pouvons nous faire un compte en banque. Et ce compte en banque, il ne sert pas, comme certains ont pensé, à construire notre maison qui va nous servir d'abri pour l'éternité. Alors il y a des petites histoires qui circulent chez les chrétiens des fois. On se dit, plus on aura donné ici-bas, en proportion ou en quantité, et plus belle sera notre maison pour l'éternité. Mais ça, ce sont des fables, ce sont des légendes, ça n'a absolument rien à voir. Puisque rappelez-vous, que dit la parole ? Elle dit que Jésus va nous préparer une place. Il va nous construire la maison ou la demeure où nous serons pour l'éternité. Donc vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Et il le fera selon ses richesses et avec gloire. Mais ce qui va se passer, c'est que l'argent que nous mettons maintenant, que nous amassons dans le ciel, c'est les choses que nous consacrons à Dieu. Et cela nous constitue en quelque sorte un crédit, un compte en banque où notre foi pourra puiser de nouveau lorsque nous en aurons besoin. Et Dieu dit, et cette chose... À cette chose, les voleurs ne peuvent pas y toucher. Ils ne peuvent pas le prendre. Donc vous avez une réserve spirituelle. C'est une façon de mettre à l'abri. Une excellente façon. Et ensuite, on a vu le verset qui suit. Au verset 21, il nous est dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et ça, c'est la deuxième protection que nous avons besoin d'avoir. Nous avons besoin que notre cœur soit protégé. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc si dans votre cœur il n'y a que avarice et cupidité, votre cœur est en mauvais état. Et on peut être avare et riche ou avare et pauvre. On peut avoir l'amour de l'argent en n'ayant rien du tout. Ce n'est pas une question de possession, c'est une question d'état de notre cœur. Donc le fait de placer notre trésor dans les choses célestes, non seulement nous donne des provisions, on peut dire, pour notre foi, pour y puiser, quand on en a besoin, mais en plus, cela protège notre cœur. Cela veut dire que nous ne permettons pas à l'amour de l'argent de dominer en nous. 1 Timothée 6,10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Hébreux 13,5, on veut aussi regarder ensemble. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Même dans ce cas aussi. Nous parlons ici, voyez, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Tout ce passage parle de nouveau de nos biens matériels. En disant que peuvent vous faire des hommes si Dieu est avec vous? Et il a dit, et il a promis qu'il va prendre soin de vous. La cupidité peut être un obstacle pour recevoir notre héritage. Si nous voulons vraiment recevoir les choses que nous attendons de Dieu, nous avons besoin que notre cœur soit en bon état. Éphésiens 5:5. Sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien qui a des problèmes avec l'argent n'ira pas au ciel. Ce n'est pas ça qui est dit. Ça veut dire qu'un chrétien qui a des problèmes d'argent, cupidité ou avarice, c'est une maladie de l'âme, on peut dire, son cœur est en mauvais état. Mais on peut aller au ciel en ayant un corps en mauvais état, on peut être malade et quand même être dans l'éternité avec Dieu. On peut aussi avoir certaines maladies de l'âme ou certaines choses qu'on n'a pas corrigées et tout de même aller dans l'éternité avec le Seigneur. Par contre, ce que la Bible nous dit ici, c'est que ces gens-là n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Nous ne pouvons pas rentrer pleinement dans les choses que Dieu a prévues pour nous. Ça va toujours nous empêcher de recevoir de lui, nous empêcher de vivre pleinement dans la puissance de Dieu, dans l'onction, fait accomplir les œuvres, voir des miracles, des guérisons et de toutes ces choses. Donc, c'est une chose extrêmement importante à considérer, que l'état de notre cœur, et vous voyez que l'argent est une des premières choses que le diable va essayer d'utiliser pour nous détruire. Alors, il est bon que ces choses soient entièrement à Dieu et soient consacrées, et que lui puisse dire dans notre vie comment nous devons gérer notre argent, comment nous devons obéir à la parole de Dieu par les dîmes, les offrandes et tous ces principes spirituels. On va encore voir l'un ou l'autre référence que j'ai notée là, 1 Corinthiens 6:10. Donc c'est le même passage, ce qu'il a écrit aux Éphésiens, il l'écrit aussi aux Corinthiens. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ensuite, Romains 1:28-29. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et donc, toute cette énumération, elle est l'énumération de tout ce qui peut se passer dans le cœur humain. Et la cupidité, l'avarice sont au milieu de toutes ces choses. Donc, il est nécessaire que nous puissions comprendre que la parole de Dieu a prévu une façon, en consacrant notre argent au Seigneur, en obéissant à ce que lui nous dit dans sa parole, d'avoir un cœur en bon état, en bonne santé, et de pouvoir ainsi pleinement profiter de l'héritage qui est à nous. Voyons un autre aspect de la dîme. Qu'est-ce qu'elle produit encore? À quoi elle sert? La dîme nous ouvre la porte d'un ministère. Dans Luc 19, lisons les passages 11 jusqu'à 17. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Comprenez bien, l'argent. Dieu nous a confié quelque chose, et de l'argent entre autres, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Donc Dieu voudrait voir qu'est-ce que chacun d'entre nous, nous faisons de tous les biens qu'il nous a confiés. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Alors ça, c'est une parole terrible, parce que le Seigneur n'avait rien demandé ici d'autre que ce que lui-même avait confié. Et c'est quelqu'un qui accuse directement la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que s'il y a une semence, il y a une moisson. La loi des semences et des moissons va durer autant que le ciel et la terre vont durer. Et donc, la réponse est « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé, dans le sens « Tu pensais que j'agissais de cette façon, alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ?» Donc ce que le Seigneur veut nous dire par là, c'est que tout ce qu'il nous a confié, il veut que nous le fassions fructifier. Et remarquez bien, il ne demande même pas aux gens de faire un travail pénible. Il demande simplement que ce qu'il leur a donné, il le donne ailleurs et que ça porte du fruit. C'est pas difficile ça. Si je vous donnais de l'argent et que votre seul travail c'est d'aller le porter à la banque pour que ça rapporte des intérêts, vous diriez, c'est pas compliqué. Mais même ça, il n'a pas été capable de saisir qu'il était censé porter du fruit. Et quand quelqu'un n'a pas cette perspective, ma vie appartient à Dieu. Ce qu'il m'a donné doit servir à sa gloire, doit porter du fruit pour lui. Alors, s'il n'a pas cette perspective et s'il ne le fait pas avec les biens matériels ou avec l'argent qu'il a, s'il ne veut pas encourager l'œuvre de Dieu, s'il ne pense qu'à lui-même, vous croyez que Dieu va utiliser une personne comme ça pour le ministère ? Certainement pas. C'est une personne qui n'est pas candidate. Elle ne peut pas être utilisée. Et ici, il nous est question de ministère parce qu'il est question d'autorité. Exercer l'autorité sur une ville, ça demande quelque chose qui vient de Dieu. Dieu est la source de toute autorité. Et ça demande alors une capacité de juger, une capacité de prendre des décisions, une capacité d'administrer. Administrer, c'est le même sens que exercer un ministère, servir. Administrer, ça veut dire exercer un ministère. La dîme, donc, nous ouvre la porte d'un ministère. Ceux qui sont fidèles, et on sait que la fidélité, c'est aussi un des aspects que Dieu recherche chez les candidats au ministère, ceux qui sont fidèles dans ces choses se préparent à recevoir d'autres choses. Et ensuite, à quoi sert la dîme encore ? Tout simplement, elle sert à nous bénir matériellement, financièrement. Alors, on ne peut pas dire que ce n'est pas important, puisque le monde entier court après ces choses et cherche à s'enrichir de toutes les façons possibles. Dieu nous a donné une façon. Il a dit, si vous êtes fidèles dans les dîmes et les offrandes, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et il nous a dit qu'il déverse ses bénédictions avec abondance. Donc j'aimerais encore dire quelques mots concernant cette façon de voir maintenant ce verset qui dit « Vous me trompez ». Nous avons besoin de réaliser que d'après ce que nous avons lu dans Marc, il y a des situations où nous pouvons limiter Dieu. Nous pouvons limiter Dieu parce que nous n'agissons pas d'après ses principes. Mais une fois que nous avons obéi aux dîmes et aux offrandes, ce n'est pas fini. Parce que maintenant, nous sommes appelés à être participants de quelque chose. Hein, s'il suffisait de dire, je fais mon chèque, j'ai calculé, c'est 10%. Et maintenant, voilà, j'attends. Ce n'est pas comme ça que ça passe. Ça se passe. Dieu veut que nous soyons participants, entièrement. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que le peuple ne pouvait pas faire. On ne voit nulle part dans l'Ancien Testament des démons être chassés. Nulle part. La première fois que quelqu'un exerçait vraiment ce ministère, c'était Jésus. Mais ensuite, dès que Jésus a commencé à l'exercer, en son nom, d'autres ont pu agir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire jusqu'à présent ? Il fallait faire en sorte qu'on était en alliance avec Dieu et qu'on était sous sa protection. Et on peut dire, d'une certaine façon, la relation que les hommes de l'ancienne alliance avaient avec Dieu est différente de celle que nous avons. Ils appliquaient certains principes et ensuite ils voyaient des fruits. Mais nous sommes appelés à agir d'une manière différente. Nous devons avoir une action, nous devons avoir une façon active, je dirais même violente, d'exercer notre autorité dans certains domaines. Parce que nous avons devant nous un adversaire qui s'appelle le diable. Le diable est appelé aussi par Jésus le voleur. C'est le même. C'est le destructeur, le voleur, c'est le même depuis toujours. Il cherche à détruire. Vous savez que la première source de pauvreté, origine de pauvreté dans le monde, c'est la guerre. Imaginez un instant s'il n'y avait pas la guerre dans le monde. Combien rapidement la situation entière dans le monde changerait. Parce que vous pouvez avoir des pays qui sont prospères, qui ont beaucoup de ressources, mais si les gens de ces ressources ne font que de se détruire mutuellement et de se voler les uns les autres, il n'y a plus de création de richesse. Il n'y a pas de prospérité. Et il y a un seul qui est responsable de ça, c'est le voleur, le menteur, qui agit dans le cœur des hommes et qui leur fait croire qu'il y a un chemin plus court, un raccourci pour s'enrichir, c'est de tuer ou de voler. Alors que le principe de Dieu, ce serait de créer des richesses et d'amener une prospérité, et pour ça, il faudrait qu'il y ait la paix. Mais nous savons, il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas le prince de la paix qui règne. Mais ce moment viendra, nous le croyons. Et en attendant, qu'est-ce que nous avons ? Nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est les lois du royaume de Dieu qui s'accomplissent. Donc le monde peut être dans une crise économique. Le royaume de Dieu ne sera pas dans une crise économique. Sauf si vous êtes du royaume mais que vous dépendez du monde, alors vous êtes tributaire du monde. Mais si vous êtes dans le royaume de Dieu et que bien qu'habitant dans le monde, vous dépendez des ressources du ciel, vous ne serez pas touché. Nous n'avons pas besoin de vous expliquer. C'est un principe du royaume de Dieu. Ça veut dire que ça marche partout. Partout dans le monde entier où des gens font confiance à Dieu, ils peuvent expérimenter les principes du royaume. Ça ne marche pas seulement dans certains pays occidentaux, certains pays riches. Ça marche partout où une personne met sa confiance en Dieu. Donc, ne soyons pas du côté du trompeur et du voleur. Soyons du côté de Dieu pour lui permettre d'agir et de bénir, quelles que soient les circonstances. Mais pour ça, il ne va pas agir à notre place. Et nous allons être simplement passifs. Nous allons commencer par obéir dans les dîmes et les offrandes, mais ensuite nous allons faire quelque chose qui est très important aussi. Nous allons commencer par exercer l'autorité qu'il nous a donnée. Nous avons vu un instant qu'il a été dit dans Luc 19, 22, « Je te juge sur tes paroles. » Nos paroles ont donc une grande importance dans ce que nous allons expérimenter au niveau de la prospérité. Nos paroles veulent être entendues par Dieu. D'ailleurs, si nous lisons la suite de ce passage de Malachie auquel nous faisons souvent référence, au verset 13, Malachie 3, 13. Il nous est dit, vos paroles sont rudes contre moi. C'est exactement le parallèle de ce que nous avons lu à l'instant dans Luc 19. Oui, il est dit que ces paroles étaient rudes contre le maître. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Donc ça, c'est la même chose que certains arguments de certaines personnes en disant, il ne faut pas croire que servir Dieu va t'enrichir. Si tu sers Dieu, tu crois que tu seras favorisé, tu crois que tu auras un sort qui sera meilleur que celui des autres personnes. Alors si nous avons ce genre de raisonnement, Dieu dit que ce sont des paroles qui sont rudes envers lui. Et ces mêmes personnes raisonnent en disant, nous estimons heureux les hautains, oui les méchants prospèrent, oui ils tentent Dieu et ils échappent. Il nous est dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a donc des situations où nous ne voyons pas immédiatement toujours les récompenses de Dieu venir. Et c'est dans ces délais, quand nous sommes patients et persévérants, que nous faisons aussi mettre notre foi en action. Et notre foi s'exprime avant tout par nos paroles. Et quand il est dit ici, ils m'appartiendront, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Moi, ça me fait penser à Luc 15. Luc 15, la parabole du fils prodigue, mais je voudrais surtout parler du frère aîné. Qu'a-t-il dit du frère aîné? Il nous a dit qu'il se plaint auprès de son père et dit, voilà tant d'années que je te sers et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous voyons la réponse du père. La réponse du père, c'est « Mais mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. » Alors, comprenons bien, si nous réalisons ça, que nous appartenons à Dieu, et c'est ça qui compte en réalité, combien de notre personne appartient à Dieu? Est-ce que nous lui appartenons entièrement comme nous disons que nous le faisons? À ce moment-là, si nous lui appartenons, ce que lui a nous appartient aussi. Et nous pouvons nous mettre dans cette position de ce fils aîné en disant, mais j'appartiens à Dieu et je le sers depuis tant d'années. Comment ça se fait que je n'ai pas plus dans ma vie? Comment ça se fait que je n'ai pas plus de bénédictions? Comment ça se fait que je vois à côté de moi des méchants, sans juger de personne, mais les personnes méchantes dans la Bible, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, et par définition le méchant, et le juste, c'est celui qui appartient à Dieu. Et donc, comment ça se fait que ces gens-là prospèrent plus que moi? Et là, il nous faut considérer cette parole du Père, en disant, tout ce que j'ai est à toi. Et ce qui va après, c'est, pourquoi tu ne t'es pas servi? Pourquoi tu n'as pas bénéficié de tout ce qui était à ta disposition? Vous ne savez pourquoi? Parce qu'il avait cette mentalité d'esclave. Il ne réalisait pas qu'il était un fils. Parce qu'un fils a l'autorité. Un fils peut exercer l'autorité. Et un fils peut se servir. Je ne sais pas commencer dans vos maisons, mais donc nos enfants ont une certaine liberté. Ils ne peuvent pas aller n'importe quand, n'importe comment, par exemple au réfrigérateur pour se servir. On a aussi des moments de repas, on a aussi une façon de fonctionner. Mais ils ont une liberté de pouvoir se servir de certaines choses. Il n'y a pas besoin constamment de demander. Et ça va surtout grandissant avec l'âge. Plus ils grandissent, plus ils ont de liberté. C'est normal. Et de la même façon, dans le royaume de Dieu, on a des bébés pour lesquels on fait tout. Et on peut dire que les gens de l'ancienne alliance, ils n'étaient même pas enfants de Dieu. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient des alliances avec Dieu, ils bénéficiaient de certaines alliances, mais ils n'avaient pas la même autorité pour agir que nous avons en Jésus-Christ. Mais parce que nous avons une autorité maintenant, avec l'autorité vient aussi la responsabilité. La responsabilité de bien s'en servir. Alors, la première responsabilité que nous avons, c'est, on passe maintenant sur le fait que nous avons compris le principe spirituel, que nous avons obéi à la parole de Dieu, nous avons la responsabilité, donc, d'avoir donné notre dîme dans une bonne mentalité, bon état d'esprit, et maintenant d'utiliser notre parole, exercer les paroles de notre bouche, en disant que nous refusons que le voleur continue de voler, et que nous croyons dans les promesses de Dieu, et nous proclamons les promesses de Dieu, et nous faisons ce que nous savons faire pour exercer notre foi. Exercer notre foi, ça veut dire que nous avons une attitude de victoire. La foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas tout le temps supplier ou espérer qu'un jour ça ira mieux. La foi, c'est j'ai maintenant rempli les conditions. Je suis maintenant dans une position de recevoir. Je ne suis plus dans la position de celui qui demande. Je suis dans la position de celui qui reçoit. Alors nous pouvons regarder ensemble certains points qui sont importants de comment recevoir. Nous avons tout à l'heure, nous avons dit que nous pouvons mettre certaines choses à l'abri. La dîme, c'est mettre certaines choses à l'abri. Vous avez compris ça? Quand vous donnez pour l'œuvre de Dieu, le diable ne peut plus toucher à ça. Cet argent est maintenant consacré. Vous avez fait un dépôt sur votre compte en banque céleste. Et maintenant, quand vous en avez besoin, vous pouvez faire aussi un retrait. La Bible déclare dans l'épître de Paul à Timothée, elle dit « Garde le bon dépôt que tu as reçu par le Saint-Esprit ». Donc il y a des choses qui sont déposées en nous spirituellement, mais il y a aussi des choses que nous avons déposées. Nous avons fait une offrande ou nous avons donné notre dîme par le Saint-Esprit. Sinon, ça n'a aucune valeur. Si vous le faites par peur, si vous le faites par contrainte, si vous le faites mécaniquement, vous n'êtes pas en train de donner la dîme. Vous n'êtes que en train de donner 10%. C'est une grande différence. La dîme, c'est une façon d'être en relation avec Dieu. Vous donnez la dîme pour honorer Dieu. Si vous donnez 10% pour faire plaisir au pasteur, ou par peur que vous allez être maudit d'une façon ou d'une autre, ça ne peut pas marcher. Donc, l'important, c'est notre attitude. Honorer Dieu, obéir à sa parole, le faire dans la bonne attitude. Mais maintenant que vous avez fait ça, alors vous pouvez maintenant être dans une position, comme le fils aîné, vous pouvez dire, moi j'appartiens à Dieu. J'ai obéi à sa parole, je peux maintenant recevoir en retour. Alors la première chose que vous pouvez faire, vous avez le droit, vous devez décider ce dont vous avez besoin. Vous devez être clair dans les choses que vous attendez de Dieu. Jacques 1, versets 5 et 8, voilà ce qu'il nous dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Donc la sagesse vient en premier, parce que avec la sagesse, vous comprenez ce qu'il vous faut. La Bible ne dit pas qu'il faut simplement demander le strict minimum pour ne pas mourir de faim. Mais vous pouvez quand même demander la sagesse à Dieu pour comprendre des choses qu'il vous faut et d'autres qu'il ne vous faut peut-être pas. Ou comprendre que certaines choses que vous allez demander, même si vous les recevez, après il vous faudra de nouveau d'autres choses. Quand nous parlons de choses, des appareils, des instruments de toutes sortes, il faut penser que ça va pas seulement nous coûter le prix d'achat, mais ça va peut-être aussi nous coûter la maintenance, le stockage, l'entretien, l'essence ou que sais-je encore. Donc il nous faut considérer ça. C'est pour ça que ça commence par la sagesse. Et maintenant nous pouvons remplacer la sagesse par n'importe quoi. Si quelqu'un d'entre vous manque de, prenons l'argent tout simplement, de l'argent, qui demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez à Dieu. Il nous a dit, il donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Si vous ne demandez pas avec foi, vous ne recevrez rien du tout. Vous savez que Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ayez cette confiance, parce que si quelqu'un dit « je vais demander pour voir si ça marche », ça ce n'est pas une demande par la foi. Parce que si on demande pour voir si ça marche, nous envisageons déjà l'échec. Et ce n'est pas la foi. On ne peut pas recevoir comme ça. Il nous est dit qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voyez, l'enseignement concernant les dîmes, offrandes, la prospérité n'est pas un enseignement qui veut tromper les gens. Nous le disons très clairement ici, que dans certaines circonstances, qu'un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et je le dis clairement, nous ne sommes pas là pour essayer de provoquer un mouvement de foule de personnes qui donneraient en espérant ou de personnes qui donneraient parce qu'elles sont manipulées. Nous disons au contraire clairement qu'un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur s'il ne remplit pas les conditions. Il ne peut pas le recevoir. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mais donc, si vous, vous êtes dans cette attitude où vous avez décidé ce qu'il vous faut, vous avez la sagesse de Dieu, vous savez, voilà ce qu'il me faut, voilà quel est le budget qu'il me faut. À ce moment-là, utilisez votre bouche et déclarez-le. Utilisez votre bouche. Je l'ai encore lu dans les Proverbes, l'homme est rassasié du fruit de sa bouche. L'homme est rassasié du fruit de sa bouche. C'est dans le fruit de sa bouche qu'il peut libérer sa foi et qu'il peut recevoir les choses dont il a besoin. Je me rappelle un serviteur de Dieu qui avait fait ses déclarations devant les gens qui étaient là et d'habitude dans les réunions. Il y a souvent des offrandes et ça sert en particulier aussi pour honorer le serviteur de Dieu et pour tout ce dont il a besoin. Il a osé faire ses déclarations courageuses. Il a dit « Ce que je reçois ne dépend pas de ce que vous me donnez, mais ce que je reçois dépend de ce que moi je donne. » C'est une vérité très importante à méditer. Ça veut dire que si les personnes qui donnent sont bien disposées et qu'elles donnent beaucoup, le serviteur recevra beaucoup. Ça, c'est dans le naturel qu'on raisonne comme ça. Mais cette chose a pour effet pervers de faire qu'un bon nombre de serviteurs, au lieu de servir Dieu, ils servent les gens. C'est-à-dire qu'ils les flattent, ils essaient de leur plaire, de faire tout ce qu'ils veulent pour qu'ils donnent et continuent de donner ou donnent plus. Mais celui qui est libre à l'égard de ces choses, il cherche simplement à plaire à Dieu. Et en voulant plaire à Dieu, il donne lui-même. Mais c'est en ayant cette attitude de lui-même étant quelqu'un qui donne, à ce moment-là, il se met dans une position d'être capable de recevoir de la part du Seigneur. Vous comprenez cela? Donc c'est quelque chose de très important. Et ce qui marche pour un serviteur de Dieu, vous aussi, vous êtes serviteur de Dieu et servant de l'Éternel. Donc ce que vous aurez ne dépend pas de ce qu'on vous donne, que ce soit votre patron ou votre affaire, ou d'autres personnes, mais ce que vous aurez dépendra de ce que vous-même donnerez. Parce que vous allez, dans cette alliance avec Dieu, vous allez vous mettre dans une position où vous allez recevoir en retour. Donc, décidez ce dont vous avez besoin, dites-le clairement, voilà ce qu'il me faut pour un besoin précis, pour acheter ceci, pour acheter cela, pour payer une facture, pour finir mon mois, ou pour partir en vacances, parce que les vacances, ça peut être un besoin, quand on a travaillé toute l'année, peut-être besoin de faire un moment de détente ou de repos. Vous voyez, c'est pas strictement seulement manger pour ne pas mourir de faim. Ensuite, c'est la première étape. Deuxième étape, prenez cette position de foi. La position de foi, vous pouvez vous appuyer par exemple sur Marc 11, 23 ou 24, soit que vous déclarez, soit que vous priez. Mais ce que vous dites s'accomplira si vous croyez que ce que vous dites, si vous croyez dans votre cœur, ce que vous dites, vous le verrez s'accomplir. Ou si vous priez et que pendant que vous priez, vous le croyez, alors vous le verrez s'accomplir. Une autre promesse, C'est dans Matthieu 18 et 19. Si vous êtes à deux personnes à vous accorder pour une chose quelconque, il nous est dit dans la Bible, une chose quelconque, elle vous sera accordée par notre Père qui est dans les cieux. Donc là encore, comment pouvez-vous vous accorder simplement par la pensée? Vous pouvez lire dans la pensée de l'autre? Vous êtes obligé, si vous voulez vous accorder, de parler ensemble, de dire qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois qu'on peut prier pour ça? Est-ce que tu crois qu'on peut exercer notre foi? Et vous savez, c'est une chose très difficile de trouver l'accord entre deux personnes. Très difficile. Il y a rarement un accord parfait entre deux personnes. Et il n'y a, on peut dire pratiquement, que le Seigneur qui peut vraiment opérer ce miracle, qu'il y ait un accord qui soit parfait entre deux personnes. Je peux être d'accord avec vous pour un bon nombre de choses, mais pour qu'il y ait cet accord, c'est un miracle de Dieu. Et Dieu l'a placé juste au niveau de deux. Parce que déjà, deux c'est difficile, mais il n'a pas dit au niveau de trois, ou de toute une église, ou de toute une nation. Donc, voilà les possibilités que vous avez pour la position de foi. Soit déclarer, soit prier, soit vous mettre d'accord. C'est le numéro deux. Ensuite, comprenons, on a dit que le voleur, on ne veut plus le laisser agir. Donc, liez la puissance du diable sur ce qui vous appartient. Vous savez maintenant que vous appartenez à Dieu, que tout ce que vous avez est à lui, et de tout ce qui est à lui, vous appartient. Alors ne laissez pas le diable constamment vous voler de ce qui est à vous. Malachie 3:11, vous avez maintenant l'autorité dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de prier « Seigneur, menace celui qui dévore ». Vous pouvez vous-même dire « Satan, ça suffit. Tu es le voleur, tu es celui qui dérobe. Ne touche pas à ce qui appartient à l'enfant de Dieu. » Marc 16:17, un des premiers miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. Les démons sont ceux qui poussent les gens à faire des meurtres, commettre toutes sortes d'horreurs, de se détruire mutuellement. C'est eux qui sont derrière les mouvements de guerre. Des fois, il y a des guerres, on ne sait même pas pourquoi c'est des guerres. Simplement parce que les personnes sont tellement remplies de choses démoniaques qu'ils ont envie d'être comme le diable qui est aussi le meurtrier. Il a été meurtrier dès le commencement, nous dit la Bible, et donc il pousse les gens à s'auto-détruire mutuellement. Et c'est ainsi que vient la pauvreté. Donc, nous lions la puissance du diable sur ce qui nous appartient. Jacques 4:7 aussi. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous ne pouvez pas lui résister dans vos pensées. Vous pouvez y résister dans vos pensées, mais ça ne suffit pas. Il faut l'exprimer dans votre bouche. Il doit pouvoir l'entendre. Il ne peut pas lire vos pensées. Mais il peut deviner comment vous allez agir parce qu'il vous observe, il vous étudie depuis longtemps. Mais si vous lui dites les choses clairement, alors il saura, voilà quelqu'un qui utilise l'autorité de la parole de Dieu dans sa bouche. Ensuite, proclamez le sang de Jésus sur ce que vous attendez est à vous. Le diable connaît la valeur du sang de Jésus. Nous la connaissons aussi. Peut-être les gens du monde ne comprennent rien à tout ça, mais nous connaissons la valeur du sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça veut dire toute la vie de Jésus. Rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné toute sa vie, et la Bible résume comme ça, elle dit, « Lui qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. » Toute la vie de Jésus est dans le sang de Jésus. Donc quand nous proclamons le sang de Jésus, c'est-à-dire toute la vie de Jésus est là-dessus, et est à nous. Il nous a donné sa vie, et nous lui avons donné notre vie. Et finalement, libérer les forces célestes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que maintenant nous pouvons commander aux anges? Oui, dans une certaine mesure. Nous pouvons parler aux anges dans la mesure où nous sommes soumis à Dieu et que les anges le sont aussi. Nous pouvons leur dire certaines choses qu'ils ont à faire. Par exemple, le psaume 103 nous dit quelque chose où les anges sont tout à fait d'accord. Verset 20 et suivant. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Vous voyez, les anges n'ont pas de problème avec ça, quand on leur dit bénissez l'Éternel, vous ses anges. Les anges ne sont pas comme dans certaines histoires, comme un génie qui serait dans une lampe, et puis on frotte et il ferait nos quatre volontés. Mais les anges sont des êtres célestes qui sont, comme le dit Hébreux 1,14, des êtres célestes au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont les messagers de Dieu et ils sont aussi les ouvriers de Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu et eux sont des serviteurs de Dieu qui sont là pour nous aider, pour nous protéger, pour nous assister, pour faire beaucoup de choses. Donc, n'ayons pas peur aussi de leur dire de se mettre en mouvement et de faire en sorte que tout ce qui nous appartient, tout cet héritage que nous avons en Jésus-Christ, nous revienne maintenant. Pour que nous soyons prospères à tous égards et que nous puissions donc faire aussi des bonnes œuvres. Ainsi, nos besoins sont pourvus et nous pourrons être non seulement bénis, mais une source de bénédiction. Donc, je rappelle les 5 étapes pour faire un retrait de votre compte en banque céleste. Vous décidez ce dont vous avez besoin. Vous prenez une position de foi. Vous pouvez lier la puissance du diable sur ce qui vous appartient légalement. Vous proclamez le sang de Jésus sur ce que vous attendez et ce qui est à vous. Et vous libérez les forces célestes des anges pour qu'ils accomplissent l'œuvre que Dieu leur a dit de faire. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.